Jean-Gilbert aux amis, bonjour, la belle-mère, bonjour. Bonjour Julie, Dieu vous bénisse. Bonjour à votre époux aussi.
Tu veux de l'attention ce matin, toi? Ouais.
Lornema vous dit à tous très bonjour. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Donc c'est la sœur Chantal, la sœur Mona, la sœur Ocilia. Bien le bonjour. J'espère que la journée a bien commencé pour vous tous. Dans mon cas, elle a continué comme celle d'hier. J'avais encore rendez-vous médical ce matin. Ceux qui ont lu ma page Facebook hier, vous savez comment les déboires du système médical se sont amalgamés hier. Donc ce matin, j'avais... tout s'est bien passé ce matin, là, mais c'était le petit traitement que j'ai à toutes les 6 semaines. Et là, je pense que le dossier médical est fermé jusqu'après les fêtes, je crois. Mais c'est pas encore sûr. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Violaine. Merci Rachel. C'est fini. Couché. Shalom la belle-mère. Bon matin, Denise. Bonjour, bonjour à Christophe, bonjour aux enfants aussi. Bien heureux de te voir. Marie-Andrée Farley, bonjour. Néma, le maître est en train de travailler. Tu peux pas voler le show constamment là, toi. Donc les gens t'ont vu. Ok? Maintenant tu vas aller te coucher. Ok? Coucher. Coucher. Coucher, Nina. Non, coucher. Donc, ce qu'elle fait là, c'est amusant à 8h30 le matin. C'est amusant. Mais quand elle te le fait à 1h du matin ou à 2h du matin, c'est bien moins rigolo. Et au moins une fois par mois, elle me le fait. Sinon plus.
C'est
Marie-Marthe, bonjour. Bonjour à mon père et à ma mère. Merci Marie-André, merci Farley. Thérèse, bonjour. Immacula, bonjour. Bonjour Guy, sois béni. S'en défaire, c'est de l'ignorer assez longtemps. Bonjour Kiki, Linda, soyez bénis. Et quand Emma me fait ça à 2h du matin, elle saute sur le lit et elle vient à 3 cm de ma figure. Inévitablement, ça réveille le maître. Bizarrement, elle ne va pas embêter la madame. C'est moi qui viens embêter avec ces choses-là. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Dans les mains. Merci. Encore 3 ou 4 minutes et on va commencer. Natacha, bonjour. Donc aujourd'hui, elle vient de s'asseoir sur le siège du maître. Ok. Donc elle fait le complet aujourd'hui. Elle. Natacha, bonjour à Indirène et à la petite famille. Donc là, elle devrait écouter la bénédiction matinale et vous allez voir sa frimousse sur ma droite. Et non, elle va descendre. Et la voilà. Non, Emma, tout à l'heure. Tout à l'heure, Mimi. Bonjour Marie-Huguette. C'est sa journée. Hein? Pour ceux qui sont juste en audio, vous ratez tout un spectacle avec l'anima aujourd'hui. Encore une minute et on va débuter. Vous avez probablement le temps d'aller vous chercher un verre d'eau, un jus d'orange. Vous faire un thé ou un café si l'eau est déjà chaude. Te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu nous accordes afin de plonger nos regards dans ta parole. Tout au long de cette semaine, tu nous bénis, tu nous mets au défi, Seigneur, aussi d'être à ta suite, d'être des disciples pour toi. Alors je prie, Seigneur, que ce matin tu continues à nous parler. Tu sais ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'il nous est nécessaire d'écouter aujourd'hui. Alors, je te prie d'arroser cette parole par ton onction toute précieuse, que tu ouvres l'entendement des uns et des autres, et que cette parole aille toucher des domaines tout précis dans nos vies respectives, des choses que tu veux changer, transformer, que tu veux voir peut-être retirer de nos vies, un engagement que tu veux voir renouveler en nous. Parle-nous. Parle précisément à chacun d'entre nous sur ce que tu veux faire avec nous. Et en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bien le bonjour en ce jeudi 9 décembre 2021. Nous en sommes à notre quatrième leçon sur la thématique « Plaire à Dieu ou à soi-même ». Cette semaine, on développait ou on poussait l'enseignement du pasteur André de dimanche et on a essayé de le détailler donc en quelques séances. Je vous rappelle que le verset se retrouve dans trois évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. On va relire les versets pour que ce soit plus clair pour nous. Mais c'est vraiment la question aujourd'hui, à qui je vais plaire, à Dieu ou à moi? Et en tant que disciple, est-ce que c'est la cause de Dieu que je cherche ou c'est mon avancement personnel? Alors Matthieu 16, 24 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8, 34 nous dit, puis ayant appelé la foule et avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23 nous dit enfin, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, juste pour faire un bref sommaire de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on vous rappelle que, à la base, Jésus n'obligeait personne à le suivre. C'était une proposition qui était faite à tout un chacun. Une proposition qui était lancée tant aux chrétiens qu'à ceux qui ne le sont pas. En fait, nous sommes tous créateurs du Dieu vivant, du Dieu Tout-Puissant. Et par conséquent, nous avons tous été créés aussi avec un propos, avec un objectif. Et Dieu veut accomplir cet objectif à travers nous. Toutefois, c'est nous qui répondons favorablement ou non à l'appel et à la vocation qu'il a lancé sur notre vie. Voilà pourquoi au début de la semaine, on a étudié tout simplement le petit groupe nominal qui disait « Puis il leur dit à tous, tant la foule que ses disciples ». Si quelqu'un veut venir après moi, donc une décision personnelle que nous sommes tous appelés à prendre, j'espère que ceux qui nous écoutent ce matin ont tous pris la décision, effectivement, de devenir disciples de Jésus, mais c'est vraiment une décision de chacun. Puis on a vu qu'il devait renoncer à soi-même, donc abandonner ses propres intérêts au profit des intérêts du royaume de Dieu. Si coûteux que cela puisse être à l'occasion, si demandant que cela puisse être à l'occasion. Le disciple fait passer les intérêts de son maître et de l'objectif et de la mission de son maître avant la sienne. En fait, la mission du maître devient celle du disciple. Puis, hier, on a vu qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, deux sens à se charger de sa croix. Oui, à vivre avec l'abnégation propre à la croix. Jésus a subi la croix, non pas pour lui-même, mais en raison de l'humanité pécheresse. Et quand nous sommes disciples de Christ, nous devons donc adopter comme mode de vie l'abnégation, où le profit de notre vie va pour l'œuvre de Dieu, va pour notre prochain et non pour nous-mêmes. Deuxième interprétation par rapport à la croix, bien entendu, se charger de sa croix, donc de notre responsabilité très personnelle, très individuelle sur la mort et la condamnation de Jésus lorsqu'il a été accroché au calvaire. Il ne méritait pas la mort, il l'a fait à cause de nous et il l'a fait pour nous. Et on se disait qu'il est bon de se rappeler chaque matin la croix de Jésus et porter ce blâme sur nous, tout simplement pour ne pas se sentir comme si les choses nous étaient dues, ne pas se sentir, entre guillemets, correct par rapport à Dieu, mais toujours être dans cet état où nous proclamons matin après matin, occasion après occasion, circonstance après circonstance, que nous ne sommes en fait que des pécheurs condamnés, condamnables, mais graciés. Et pour toute l'éternité, nous voulons nous rappeler que nous avons été graciés, que nous avons mérité ou que nous avons bénéficié plutôt de la grâce de Jésus, qui ne nous était pas due, qui ne nous est toujours pas due, qui ne nous sera jamais due, qui nous est donné simplement par amour et par compassion de Christ à notre égard. Mais pour le restant de l'humain, de l'éternité, je serai malgré tout un pécheur condamné et gracié, ou condamné, mais surtout gracié. Je veux m'en rappeler pour être reconnaissant envers mon Seigneur et ne pas avoir la grosse tête et l'orgueil et la suffisance qui nous gagnent si souvent dans notre cheminement avec Christ. Après un certain nombre d'années, on a l'impression qu'on a remboursé notre dette. On ne remboursera jamais notre dette. Nous n'en serons jamais capables. Nous serons pour toujours des pécheurs graciés et c'est une chose merveilleuse. Et là, il termine en disant « Et qu'il me suive ». Dans les trois versets, donc dans les trois évangiles, il termine avec ce petit groupe nominal « Et qu'il me suive ». En fait, il commence son discours avec l'appel ou avec la présomption que certains vont le suivre. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc si, et on se rappelle que venir après quelqu'un, l'expression venir après, c'est se placer comme disciple auprès d'un maître. Et il va compléter en disant, non seulement il aura renoncé à lui-même, donc faire passer le maître et la mission du maître avant sa propre personne. Deuxièmement, il va devoir se charger de sa croix, donc vivre dans l'abnégation et dans l'humilité et la reconnaissance envers la grâce qui lui a été accordée. Et enfin, qu'il me suive. Le terme « suivre », c'est le terme grec « akolutheo ». Akolutheo, donc « akolutheo ». Je répète et j'épelle « suivre » en grec « akolutheo ». Akolutheo. J'épelle toujours et je vous donne les mots en grec pour ceux qui, notamment, prennent des notes, et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Donc, qu'il me suive. Suivre, ça veut dire venir à la suite de quelqu'un qui nous précède. On ne peut pas suivre quelqu'un devant la personne. On ne peut pas suivre quelqu'un en avance sur la personne. Nécessairement, lorsque nous suivons quelqu'un, nous sommes derrière la personne. Alors, pour nous, ça veut dire que Jésus conduit, que Jésus ouvre le chemin et que je vais me positionner derrière lui et continuer à suivre son pas. Lorsqu'on suit quelqu'un, vous l'avez certainement déjà fait en voiture, lorsque quelqu'un vous dit « suis-moi simplement, puis je vais te conduire là où tu dois aller », ben on se range derrière la voiture de tête et puis on suit. Si la voiture de tête accélère, on accélère. Si la voiture de tête ralentit, on ralentit. Si la voiture de tête tourne à droite, on tourne à droite. Si la voiture de tête tourne à gauche, on tourne à gauche. Lorsqu'on fait ça, on prend pour acquis que la personne qui conduit la voiture de tête, ou au moins que quelqu'un qui est dans la voiture de tête, sait où on s'en va. Sinon, on serait comme deux aveugles qui se conduisent dans la vie et puis qui ne savent pas où ils vont. Devant nous, lorsqu'on suit quelqu'un, ben la personne devant, on présume, on lui fait confiance qu'elle sait où elle va et qu'elle va nous diriger dans le meilleur temps possible, dans les meilleures conditions possibles et jusqu'à l'endroit désiré. Lorsque nous nous mettons à la suite de Jésus, ça veut donc dire aussi que nous le laissons lui conduire. Nous le laissons diriger nos pas. Nous le laissons nous mener là où il sait que nous devons aller. Donc, dans le fait de suivre quelqu'un, lorsque Jésus nous parle ici, il y a une question de soumission aussi. On ne peut pas suivre sans se soumettre à la personne qu'on suit. On se soumet à son rythme, on se soumet à l'objectif ou à l'endroit où elle nous mène, on se soumet au chemin qu'elle emprunte, on se soumet à la vitesse qu'elle emprunte, on le suit pas à pas. Et avec le Seigneur, ça doit être la même chose. Nous placer derrière lui parce que nous sommes ses disciples en lui disant « Seigneur, je vais suivre la direction, je vais suivre le chemin, je vais suivre le rythme et la cadence, je vais suivre aussi toutes les bifurcations que tu voudras donner sur le trajet, je m'y soumets. » Peut-être que vous êtes comme moi, j'ai un GPS sur mon cellulaire et autrefois, je détestais ce bidule. Maintenant, je l'utilise un peu plus, essentiellement pour savoir quand il y a un embouteillage quelque part. Oui, un peu pour savoir s'il y a une police qui est cachée, un policier qui est caché quelque part. Ça peut être pratique à l'occasion, mais on le prend surtout pour savoir où on va. Savoir ben, s'il y a un ralentissement, s'il y a un embouteillage, ben, je veux savoir le meilleur chemin pour m'y rendre. Mais très souvent, Le GPS va me dire « tourne à droite » et moi, je préfère aller tout droit. Et parfois, je contourne le GPS en disant « ouais, je sais où il s'en va à droite, mais moi, je préfère pour X raisons, parce que la route est plus belle, parce que j'ai mon temps ou parce que je pense qu'il ne calcule pas telle chose, alors moi, je continue tout droit. » Avec Christ, on ne peut pas faire la même chose. Avec Christ, il nous guide et on le suit. On peut connaître l'objectif vers lequel il nous amène. Parfois, effectivement, il y a des plans et des dessins que Dieu nous a révélés et on sait l'objectif final. Mais la route qui nous mène là-bas nous est presque tout le temps, malgré tout, inconnue. Et il y a des fois où le Seigneur nous fait bifurquer à droite ou à gauche et on se dit « mais ce n'est pas la bonne route pour y aller ». Mais c'est parce qu'en cours de route, Dieu a quelque chose à faire avec nous. Rappelons-nous simplement cette histoire où Jésus va rencontrer la Samaritaine. À l'époque, les Juifs ne passaient pas. Les Juifs, donc de Judas, ne passaient pas à travers la Samarie parce qu'ils étaient en conflit avec les Samaritains. Ils préféraient prendre un grand chemin et contourner la Samarie pour rejoindre la Galilée plus tard. Et Jésus, lui, non, va traverser la Samarie. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il a une femme qu'il doit rencontrer et à qui il doit parler. Et suite à cette rencontre avec cette femme, un seul tête-à-tête qu'il a eu avec elle, le village entier, la ville entière de cette femme a été marquée par la présence de Jésus. Et la foule est venue à lui. Ils vont même dire, on était venu à toi à cause de ce qu'elle nous a dit, mais maintenant on est près de toi à cause de ce que toi tu nous dis. Donc, parfois, le Seigneur fait ainsi avec nous. Il nous amène à droite ou à gauche par un chemin qu'on n'aurait pas emprunté par nous-mêmes pour qu'on rencontre des gens. Assurément, vous voyez où je m'en vais. Hier, je disais que j'ai déambulé dans les méandres du système de la santé avec une rencontre qui en pousse une autre, qui en déplace une autre, qui transforme un autre rendez-vous. En tout cas, dans tous ces dédales-là, je pourrais me dire, mais ce chemin m'embête. Mais foncièrement, si n'eût été la maladie, n'eût été le chemin que j'ai traversé, qui n'aurait assurément pas été celui que j'aurais voulu emprunter au départ, mais n'eût été ce chemin dans la maladie, je n'aurais pas rencontré un tas de personnes que je rencontre aujourd'hui simplement parce que j'ai été malade. Donc parfois, le Seigneur nous amène dans un chemin où on dit, mais Seigneur, tu fais erreur, c'est pas comme ça qu'on se rend au point final où tu m'as dit qu'on allait. Pourquoi tu veux que je passe à droite? Mais parce qu'en passant à droite, Dieu a quelqu'un qu'il veut que je rencontre. Donc lorsque je me soumets, lorsque je suis la personne, je suis aussi celui qui me précède dans l'endroit, dans le rythme, dans les arrêts, dans la cadence qu'il impose. Alors suivre quelqu'un qui précède. Le joindre comme un préposé. Lorsqu'on parle d'akoulutheo, on parle donc de rejoindre quelqu'un comme son préposé, ou l'accompagner, ou rejoindre quelqu'un en tant que disciple. Ce n'est pas simplement faire du tourisme. Ce n'est pas simplement, OK, parce que tu vas à droite, je vais à droite. Puis quand tu iras à gauche, j'irai à gauche. Non, je vais à droite parce que je sers ce maître lorsque je vais à droite. Je vais à gauche parce que je sers ce maître parce qu'il va à gauche. Notre vie de service ne doit pas être considérée comme une vie de tourisme. En tout instant, je dois réfléchir, comment suis-je, comment puis-je être utile à mon Seigneur? Je ne suis pas un accompagnateur, je suis un disciple. Nous ne voyageons pas avec Jésus, nous travaillons pour Jésus durant le voyage qu'est cette vie. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a des personnes qui sont touristes avec Jésus. Donc, ils se promènent et ils admirent le paysage, ils profitent des hôtels où il nous fait séjourner, ils profitent des découvertes liées au voyage. Mais ils ne servent pas. Un disciple, en fait, profite très peu de ce qui se passe autour. Oui, bien sûr, il marche et il voit les paysages, il voit les montagnes, il voit les prairies, il voit les endroits bucoliques, il voit les petits ruisseaux, patati patata, parce qu'il chemine, il voit ces choses-là. Mais son objectif n'est pas de prendre des photos. Son objectif n'est pas de remplir un album photo. Son objectif est de servir. Alors, peu importe où on va, peu importe où le chemin de Dieu nous conduit, nous devons rester dans cette attitude de service. Nous nous sommes placés après lui, nous sommes venus par décision personnelle à sa suite, donc en tant que disciple, et lorsque je chemine avec mon maître qui avance et qui fait un pèlerinage ici-bas, je suis en train de le suivre, mais pas tout simplement pour être au même endroit que lui quand il est quelque part, mais essentiellement pour le servir en tout lieu, en tout endroit, en toutes circonstances et en tout temps. Un disciple sert son maître, qu'il soit à la maison ou qu'il soit à l'extérieur. Alors pour nous, ça veut dire quoi? Mais pour moi, ça veut dire qu'on doit se poser des questions. Quand je suis à l'épicerie, comment puis-je servir Dieu? Quand je suis à un match de hockey, comment puis-je servir Dieu? Quand je suis dans un musée, comment puis-je servir Dieu? Quand je suis au travail, comment puis-je servir Dieu? Quand je suis au gym, comment puis-je servir Dieu? Quand je suis en visite chez des gens, comment puis-je servir Dieu? Le disciple a toujours en pensée qu'il est en service. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler comme quoi nous sommes appelés à être des soldats. La Bible nous compare en tant que croyants à plein de choses, dont des serviteurs, dont des athlètes, mais aussi des soldats. Mais le terme qui est utilisé pour soldat, il est très clair que c'est soldats en service actif. Ce ne sont pas des soldats en permission. Ce ne sont pas des soldats en pause ou en trêve. Ce ne sont pas des soldats qui sont en vacances. Bien entendu, un soldat qui est en vacances, professionnellement, reste un soldat. Son titre, sa fonction reste la même. Parce que dans 2 semaines, quand ses vacances sont terminées, il est encore soldat. Mais il y a une différence entre un soldat qui est en permission, donc en congé, et un soldat qui est en service actif. Le terme utilisé pour soldat dans la parole de Dieu est un terme qui représente un soldat qui est en service actif. Et un soldat qui est en service actif est en service 24 heures sur 24. Bien sûr, il a une pause pour aller dormir. Mais même durant ce sommeil, si on l'appelle, il se lève et il doit aller servir. Il doit aller servir ses supérieurs, il doit aller servir la nation. Nous sommes soldats de Christ. Nous sommes constamment en service. Alors pose-toi la question, quels sont ces endroits où tu fréquentes, quels sont ces endroits où tu vas durant la semaine et tu ne te préoccupes pas de ton service? Est-ce que faire l'épicerie pourrait devenir différent? Est-ce que ça pourrait changer ta façon de faire l'épicerie si tu comprenais que tu es en service? Dimanche, après l'assemblée, on est allé acheter des trucs pour la garderie, hein, pour Daphné, un petit frigo. Et on arrive à l'endroit où il y a le mini-frigo et il y a une dame qui est debout devant le petit frigo. Et là, on regarde, mais on dit, mais c'est dans cette allée. Je dis, ah, ben oui, c'est celui-là. Et la dame, elle dit, non, c'est pas celui-là parce que moi, je le veux. Elle dit, oh non, mais ça, c'est un démonstrateur. Elle dit, mais j'ai déjà demandé aux gens, ils vont aller me chercher les choses. Donc, quand les préposés reviennent, on dit, la dame en a besoin et nous, on en a besoin aussi. Donc, servez-la en premier et amenez-nous le deuxième. Il était supposé en avoir deux. En fin de compte, il n'y en avait pas deux. Il y en avait juste un que la dame a pris. Mais avec cette dame, on s'est mis à parler, ma belle-mère essentiellement, avec mon épouse. Et elles ont, bien entendu, amener la question de Dieu là-dessus, ou dans la conversation. Et quand on s'est dit au revoir, la dame a dit, « Ah, mais je suis navré pour vous que vous n'ayez pas pu trouver le frigo. » Et Daphné a eu la réponse juste, « Non, on est venu ici parce qu'on devait vous rencontrer. » Et c'est là l'attitude du croyant, et c'est là l'attitude du serviteur qui dit, « Même lorsque je vais acheter un frigo pour la garderie, je suis malgré tout en service. » On se rappelle cette histoire que je vous ai dit, ce jeune pasteur qui arrive dans un nouvel endroit, entre guillemets, une nouvelle église, une nouvelle paroisse, et puis à un moment donné, il va faire une visite à l'hôpital et il se rend compte que l'infirmière est une membre de sa congrégation. Il regarde l'infirmière en lui disant, « Oh, mais je ne savais pas que vous étiez infirmière. » Elle lui dit, « Non, pasteur, je suis une chrétienne déguisée en infirmière. » Parce que pour elle, c'était son service de Dieu qui comptait avant sa profession et son métier. Son métier et sa profession n'étaient qu'une occasion que Dieu utilisait pour la placer dans un endroit où elle pouvait servir. Peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, mais avant que je ne sois malade, mon beau-père a été malade pendant un certain temps et j'étais celui qui le voyageait très régulièrement vers l'hôpital. Il avait demandé à Daphné d'être un peu sa conseillère niveau administratif et tout ça. Et moi, j'étais son conseiller, entre guillemets, médical et spirituel. Donc, je voyageais fréquemment avec lui. Et dans les derniers temps, lorsqu'il était hospitalisé, j'allais le voir plusieurs reprises durant la journée pour voir comment il allait. Mais cette fréquentation de l'hôpital et particulièrement des soins palliatifs a fait en sorte que j'ai eu envie de travailler en tant qu'aumônier, si possible, au niveau des soins palliatifs. Par la suite, le pasteur Fontalvo, celui qui me précédait à l'église, est tombé malade aussi en soins palliatifs et ça n'a fait que aviver davantage mon désir de travailler aux soins palliatifs. Et j'ai demandé au frère Léonel, qui travaillait dans le système de la santé à l'époque, je lui ai demandé, est-ce que tu peux te renseigner pour savoir comment on devient aumônier dans les soins palliatifs. Et on s'est renseigné, c'était très compliqué. Il aurait fallu que je me mette sous la tutelle du diocèse catholique de Montréal pour être accrédité. Et une fois accrédité, ben là, j'aurais dû respecter certaines normes théologiques. En fait, de ne pas dire grand-chose sur la foi, mais de parler d'un Dieu déiste, un peu n'importe quoi, n'importe qui. Donc, je n'aurais pas eu l'occasion de partager. Et j'étais quand même triste de ne pouvoir agir comme aumônier dans un soin palliatif. Mais ça restait dans mes pensées et dans mon cœur. Quand je suis tombé malade, eh bien, je suis devenu l'aumônier de chacun des services d'oncologie où j'ai été. Il y a même des fois où les infirmières me disaient « Pasteur, on sait que vous êtes avec votre traitement aujourd'hui, mais pourriez-vous tout à l'heure, quand vous allez prendre une petite marche, pourriez-vous aller de l'autre côté? Parce qu'on a un patient qui est un peu compliqué aujourd'hui. Pourriez-vous lui parler? » Il y a même des occasions où les médecins m'ont dit « Est-ce qu'on peut donner ton numéro de téléphone à un de nos patients qui vient d'avoir un diagnostic et qui trouve ça difficile? » Même dans un service de soins d'oncologie, en recevant des traitements, on doit se poser la question « Comment puis-je être utile et comment puis-je servir mon Seigneur? » Alors ce matin, quand tu vas partir vers le travail, ou ce matin, quand tu vas reprendre le travail, si tu nous écoutes à ta pause, la question c'est, là où tu es, comment peux-tu servir aujourd'hui? Lorsque tu vas aller faire l'épicerie cet après-midi, je te lance le défi. Comment à l'épicerie peux-tu servir? Ma belle-mère a tout de suite parlé de Jésus à cette dame lorsqu'on cherchait le frigo. Daphné a renchéri sur la chose. Et je regardais la scène et je me disais, elles sont en train d'être des servantes de Dieu, même à la quincaillerie, alors qu'on ne s'attendait pas à rencontrer cette dame et sa fille. Un disciple suit. Un disciple sert. Lorsque Dieu dit, on bifurque à droite et on va chercher un petit frigo, Dieu a peut-être des plans plus glorieux, plus éternels qu'un simple petit frigo. Il a peut-être un plan pour que son évangile soit proclamé à une dame qu'on ne rencontrera plus jamais de notre vie, peut-être, qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Mais elle avait besoin d'entendre ce message à ce moment-là. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, si tu as décidé effectivement d'être disciple de Jésus, suis son rythme. Quand il tourne, tourne. Quand il accélère, accélère. Quand il ralentit, ralentit. Pose-toi juste la question. Seigneur, si tu vas à droite, c'est assurément parce que tu as un plan. Permets-moi, Seigneur, d'être fidèle à ton service. Peu importe l'endroit, peu importe la circonstance, peu importe le rythme, je veux te servir. Un peu comme Paul. Et on conclut là-dessus ce matin, comme Paul va dire à son fils spirituel, Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Le fait que tout soit favorable ne veut pas dire que c'est plus la volonté de Dieu qu'un moment où c'est plus difficile. Et le fait que tout soit défavorable pour annoncer l'Évangile ne veut pas dire que tu es excusé de le faire, que tu n'es pas tenu de le faire, et deux, que ce n'est pas la volonté de Dieu même de le faire. L'Évangile se proclame, peu importe les circonstances, peu importe qu'elles soient favorables ou non, peu importe que tu te sentes bien ou non, peu importe que tu aies prévu ou non, le réflexe du serviteur est de servir. Le réflexe du disciple de Jésus est de partager l'Évangile en tout endroit. Il y a quelques semaines, mon coiffeur, qui n'avait pas de mes nouvelles depuis un certain temps, et il habite près de l'église, est passé à l'église. Et bien entendu, vous connaissez le frère Gilles, et le frère Gilles, à sa façon, est un grand évangéliste. Il n'y a personne qui s'arrête pour regarder le panneau de l'église. Si Gilles est dans l'entrée, c'est sûr que cette personne termine avec un pamphlet entre les mains. Et assurément, le frère Gilles va même connaître le nom de la personne. Et il lui présente l'Évangile. Et quand j'ai revu mon coiffeur la semaine dernière, il me dit, oui, effectivement, j'ai rencontré Gilles. Et il m'a donné un de vos pamphlets. Et j'étais fier de Gilles. J'étais fier de notre frère parce qu'il a profité de toutes les occasions. Il ne sait pas s'il va rencontrer mon coiffeur une autre fois. Mais il a eu l'occasion de faire son travail. En toute occasion, favorable ou non. Que ce soit un tel réflexe pour nous aussi. Alors, prions. Seigneur, merci pour cette encourageante parole de ce matin. Merci, Seigneur, pour cette défiante parole ce matin. Tu nous mets au défi de te suivre, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, en ayant comme seul emphase dans nos pensées, en ayant comme seule directive dans nos pensées, comment puis-je servir encore mon Seigneur aujourd'hui? Alors je prie, Seigneur, qu'effectivement tu nous utilises aujourd'hui. Tu connais tous les détails de cette journée, même ceux qu'on ne connaît pas. Tu sais les personnes qu'on va rencontrer, qu'on n'a jamais su au préalable qu'on allait les rencontrer. Je prie, Seigneur, que ce soit dans une salle d'attente, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un garage, que ce soit dans un hypermarché, que ce soit à la banque, que ce soit au travail, que ce soit dans un musée, que ce soit au gym, peu importe l'endroit. Je prie qu'aujourd'hui, on ait encore davantage que jusqu'à présent ce désir, ce réflexe d'être serviteur et d'être des proclamateurs de l'Évangile en tout endroit. Seigneur, je prie pour ma sœur qui s'en va à l'épicerie, qu'elle parle de toi. Je prie pour mon frère qui s'en va à la quincaillerie, qu'il parle de toi. Je prie pour ma sœur qui est peut-être dans une salle d'attente aujourd'hui, qu'elle parle de toi. Donne-nous l'occasion, donne-nous l'hardiesse de propager l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions ce matin. Puisse le Seigneur inonder vos pensées aujourd'hui et ramener tout au long de cette journée ces paroles qu'on a partagées aujourd'hui. Alors simplement vous rappeler, demain on a deux rendez-vous. Demain matin à 8h30, bénédiction matinale. Et demain soir, 19h, notre temps d'intercession. Je sais que les deux dernières semaines, ça a sauté. On s'en excuse, j'étais pris avec quelques dossiers familiaux. Donc demain, donc deux rendez-vous. On se rappelle aussi, pour les inscriptions pour dimanche, vous devez le faire par courriel ou par téléphone si vous voulez assister à l'Assemblée en présentiel. Et je le répète encore, pas par Facebook et pas par Messenger, mais vraiment par courriel et par appel téléphonique. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas, servez notre Seigneur, peu importe où il vous amène. Au revoir tout le monde.